Bonsoir. Merci d'être nombreux ce soir pour écouter Ferenc Ferranti qui va nous présenter deux ouvrages. Un paru très récemment qui est Méditerranée au pluriel et l'autre qui est le catalogue de l'exposition qui est visible en ce moment à la base sous-marine et qui s'appelle Itinérance au pluriel. Alors Ferenc Ferranti est bien connu et depuis longtemps. Pour ce qui me concerne, je pense que je le connais depuis la parution de son premier livre, qui était Le Banquet des Anges, en 1984. Et je me suis intéressé à ce livre et au suivant, d'ailleurs, parce que j'étais un passionné du baroque, et aussi d'ailleurs de la Méditerranée. Et d'autre part, il se trouve que je suis un ami de Bernard Plossu, qui est un très grand photographe, et Ferenc Ferranti vient de me dire qu'il connaissait très bien Bernard Plossu, qu'ils étaient amis, etc., etc. Et il savait même que Bernard Plossu allait faire une exposition à la galerie L'Arrêt sur l'image le 5 décembre prochain. Voilà. Alors, les livres de Ferenc Ferranti sont très beaux, magnifiques et même merveilleux. Je vais commencer par Méditerranée au pluriel qui vient de paraître, qui est un superbe album et qui est une sorte de florilège à la fois par les textes de Dominique Fernandez mais aussi par le choix des très nombreuses photos à la fois en noir et blanc et en couleur de Ferenc Ferranti. Alors Dominique Fernandez précise que le pluriel de Méditerranée correspond à leur choix, à tous deux. Un choix qui est assumé comme étant subjectif en fonction de leurs préférences, à tous les deux d'ailleurs. Je peux lire rapidement les titres de chapitre qui sont parlants. Le premier, mer Méditerranée, mer, la mer, vestiges, ports, îles et presqu'îles, Sicile, Algérie, Islam, Catalogne au pluriel, et enfin, dernier chapitre, retour à la Grèce. Alors effectivement, nous, publics, pouvons suivre votre parcours d'auteur depuis très longtemps. Et je voulais vous poser une première question. Une question qui est un peu stupide d'ailleurs. Est-ce que vous vous considérez d'abord comme un photographe ou d'abord comme un voyageur?
Alors, c'est une question très embarrassante. D'abord, bonsoir. C'est une question embarrassante parce que je pense que les deux sont étroitement liés. Et surtout, c'est que le voyage a engendré la photographie. La photographie stimule les voyages. Donc, au fond, on a souvent besoin, non pas d'enfermer, le mot est péjoratif, mais disons de circonscrire quelqu'un dans un cercle. Je ne dirais pas une étiquette non plus, parce que tout ça sont des mots qui sont tellement connotés aujourd'hui que l'on pense que il faut en effet leur correspondre. Je suis avant tout voyageur, parce que la photographie est née du voyage, donc on va dire en voyageur photographe, et qu'aujourd'hui la photographie, mais pas uniquement la photographie, stimule la découverte, parce que il n'y a pas longtemps, je viens de découvrir ma première photographie. J'étais très ému parce qu'elle était restée dans ma mémoire et je croyais l'avoir perdue. Alors j'ai retrouvé le tirage. Et cette photographie, c'était bien avant le voyage. C'était à l'époque de mes tout premières errances, je dirais. C'était en Bretagne en plus. Jamais on aurait imaginé que ma première photo serait faite en Bretagne. Et c'était l'observation de la mer. J'étais fasciné sur une plage, par une vague, par le ressac. non pas le ressac sur le sable, mais par cette vague qui sans cesse revenait. Et j'avais pas d'appareil photo à l'époque, je n'avais jamais fait de photo encore, et par chance, j'étais avec un ami qui en avait un, et je lui ai demandé son appareil, il avait un 135, je m'en souviendrai toujours. Je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, c'est très simple, tu fais monter la petite aiguille jusqu'à ce qu'elle soit dans le cercle. Bon, ben, j'ai fait ce qu'il fallait, et j'ai fait une seule photo. Et c'était cette photo, donc pour l'avoir retrouvée, c'est exactement le moment où la vague s'écrète. Et c'est là que je me suis rendu compte, bien plus tard, mais je pense que j'en avais l'intuition, que j'étais fasciné par l'arrêt du temps. Donc au fond, c'est paradoxal, parce que la photographie, c'est l'arrêt sur image, justement, et le voyage, c'est au contraire la continuité. Donc il faut, je crois, trouver un équilibre permanent entre l'énergie de l'errance et puis la capacité à vouloir, à un moment ou un autre, s'arrêter, marquer une étape, et fixer l'instant.
Tout à fait. D'ailleurs, on peut remarquer dans votre travail un intérêt d'une part pour la lumière et d'autre part pour les formes. Et justement, ce moment dont vous parlez, c'est un moment où vous saisissez une forme, et une forme quelquefois d'ailleurs très passagère, très éphémère. Vous indiquez plusieurs exemples, je ne me souviens plus d'ailleurs si c'est dans Méditerranée ou dans Itinérance, dans Méditerranée je pense, où vous avez attendu très longtemps, notamment dans certains temples en Égypte, me semble-t-il, que la lumière vienne éclairer telle ou telle statue, ou également dans une église. Vous avez attendu le matin qu'elle éclaire tel côté de l'église et l'après-midi tel autre côté. Alors justement, il y a un art de saisir l'instant et de le saisir à travers une forme, mais aussi selon une certaine lumière. Pourriez-vous
Alors là, bon, ça c'est toute ma vie. D'un seul coup, je ne sais pas comment la résumer en deux, trois idées. L'idée essentielle, c'est la rencontre. C'est que la lumière est un don. La lumière elle est immatérielle, elle est, en effet, elle est impalpable, il y a de la luminosité, aujourd'hui il n'y a pas de lumière, mais on est sensible. Moi je suis un être du jour, je ne suis pas du tout un être de la nuit, je m'éveille en chantant parce que la lumière est là, et puis je me couche heureux de retourner à la pénombre parce que je sais que je vais sommeiller, et voilà, je n'ai pas besoin de la nuit. La nuit, j'aime regarder les étoiles et la lune, mais c'est autre chose. Le soleil, c'est quelque chose qui est un feu intérieur pour moi, et c'est... Au fond, je dis bien le soleil, la lumière c'est autre chose. Or le jour où j'ai compris, je vais citer trois étapes qui sont quand même assez connues par mes proches, en effet c'est Égypte, c'est une conférence de Desroches Noblecourt qui m'a expliqué le phénomène de l'équinoxe. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand quelqu'un a le pouvoir d'évocation, quand quelqu'un a la capacité de donner à voir, voilà, tout simplement de donner à voir, c'était son cas, parce qu'elle était égyptologue mais elle était passionnée, elle a décrit un phénomène, mais elle n'a pas montré d'image. Ça, c'est fondamental. Et de là est née une image dans mon cerveau. Et quand l'image, au fond, a suscité le désir d'aller la vivre, de vivre l'instant, l'image ne correspondait pas du tout à ce que j'avais dans l'imaginaire. Et ce moment est très important, parce que le photographe est quelqu'un qui compose avec la réalité. C'est-à-dire, c'est le seul artiste, je parlais ce matin des jeunes classes d'Italiens, et qui n'avaient jamais vu d'exposition de photographie. Et je leur ai dit, est-ce que vous prenez conscience que, parce que vous voyez des photographies pour la première fois, qu'une photographie, que le photographe est le seul artiste ou la seule personne qui n'a pas d'autre choix que de composer avec le réel. Un peintre, un sculpteur, il a de la matière, c'est tout à fait différent. La matière, elle est palpable, mais il en fait ce qu'il veut. Il la transforme. Alors que le photographe ne peut que... Alors qu'après, on peut faire des photos avec du virtuel, c'est tout à fait autre chose. Et donc, quand j'ai eu ces rencontres avec la lumière, j'étais très ému parce que je me suis rendu compte que c'était, ça y est, c'était mon encre d'écrivain. Enfin, je ne me considère pas comme un écrivain, mais je me considère comme quelqu'un qui, à un moment ou un autre, avait trouvé une lumière blanche, une encre blanche et pas une encre noire que j'allais... Évidemment, après, il y a cette phrase que j'aime tellement de Camus quand il écrit justement Les Noces et qu'il décrit l'Algérie comme un pays où on ne peut pas lire l'ombre, la lumière sans les ombres. Parce qu'on pense à ces pays, c'est le cas de la Méditerranée, justement, écrasés de soleil. Mais oui, mais s'il n'y a pas d'ombre, vous ne pouvez pas savoir que c'est écrasé de soleil. C'est-à-dire les deux sont intimement liés. Et donc, dans cet équilibre, dans cette alchimie, j'aime bien ce mot à la Marguerite Yourcenar, finalement, de Zénon, l'œuvre noire, en plus le noir, il y a ces zones d'ombre qui vont éclairer les parties de lumière. Et ces rencontres, donc ce solstice que j'ai eu le bonheur, enfin le privilège de photographier, avec cet instant en revanche très fugitif, et elle va appeler une autre image, très différente en revanche, qui est le solstice d'été à Ganagobi, au monastère où je fais mes retraites, où je fais mes périodes de silence, enfin voilà, mes lieux où je me retrouve finalement. Et là, c'est le contraire. C'est une connaissance intime du lieu, je vis à la liturgie des heures, et la liturgie des heures rythme ma vie au quotidien, d'ailleurs, pour tous les cycles. Et donc, on va devoir avoir cette exigence très forte de rythmer sa vie par les heures, les minutes, mais aussi les instants. Et quand à Ganagobi, je vous invite à y aller au mois de juin, pour le 24 juin, si par chance il y a eu la messe un peu tôt, eh bien, vous allez voir, l'air est chargé d'encens. Et la lumière qui est impalpable devient concrète. Pourquoi? Parce que les particules d'encens la fixent et découpent le rayon dans l'obscurité. Et en fait, c'est un cadran solaire. Hein. La vie est un cadran solaire, le voyage est rythmé par les cadrans solaires. Et on est sans cesse à devoir fixer ces instants à la fois fragiles, intemporels et au contraire parfois qui marquent les étapes.
Très bien. Alors, d'autre part, vous êtes de formation architecte, vous avez une formation en architecture, et donc vous êtes sensible tout particulièrement à la forme des monuments, et aussi, on pourrait dire, à certains jeux, au pluriel, géométriques. Mm-hmm. Et cela apparaît dans certaines des photos qui sont présentes ici, peut-être même dans toutes, finalement. Ce jeu donc entre la forme et la lumière et le monument, la pierre, le lieu, la mer, etc.
Parce que je suis obsédé du cadrage. Voilà. Je suis de la vieille école, je suis un fils de l'argentique, donc c'était des photos où on avait le numérique aussi, attention, on y reviendra. Mais moi, si vous voulez, je suis formé par des films de 36 poses où chaque photo avait du sens, surtout quand vous étiez jeune étudiant, qu'on n'avait pas d'argent et qu'on avait tant de films pour partir en voyage, eh bien, chaque photo était pensée, était construite. Voilà. Et alors, je revendique que j'aime beaucoup le numérique maintenant parce que je fais du numérique comme de l'argentique. Mais mon obsession, et c'est vrai que ma formation d'architecte est fondamentale, chez moi, mais je suis quelqu'un d'une extrême exigence, voilà, et je le revendique. Je suis un classique, je suis pas du tout alors dans ces cas-là, je vais pas dire un baroque parce que je suis aussi un baroque, mais dans ces cas-là, je suis pas un moderne, on va dire. Voilà, je suis quelqu'un qui est attaché, je suis très rigoureux, je suis incapable de retoucher une image. Et la chance, je viens de voir arriver Pascal Giffard de Dupont, et on prépare une exposition sur le Japon. Et voilà, et elle sait que sur 21 photos retenues, eh bien, j'ai enlevé 2 mm sur 2 photos. Voilà. C'est-à-dire que j'étais ému parce que je me suis rendu compte en voyant toutes ces images que voilà, j'ai eu l'exigence au départ de ne pas avoir à penser à les retoucher, à les transformer. Voilà. L'image, elle doit être dès le début comme un texte. Hein. C'est un texte qui va trouver son rythme. Mais à la fin, quand vous savez que votre texte est achevé, il faut rester extrêmement vigilant à ne pas le dénaturer, à ne pas trop le briser. Voilà. Mais en revanche, dans cette exigence de l'écriture, je reviens tout le temps à l'étymologie, hein, le photographe, photos, graphein, écriture de lumière, écrivain de lumière, il faut... ce qui est magnifique, c'est la formulation. Et quand vous parlez, donc, si je vais juste donner un peu le rythme du livre, parce qu'il est étroitement lié à votre question, c'est que si vous disiez les titres, il y a vestiges.
Oui.
Il y a, alors là, pour la première fois, je tiens à vous dire que c'est la première fois que je me rends compte que je mets pratiquement des S partout. Parce que j'ai mis déjà baroque avec un S, que là j'ai mis Catalogne avec un S, que j'ai mis Méditerranée avec un S, itinérance avec un S. En fait, c'est intéressant, cette pluralité montre que tout en étant très construit dans son c'est un peu la variation sur un thème, vous voyez, c'est qu'en fait on a un thème obsédant dans nos vies, on sait qu'on a des domaines qui nous correspondent, qu'on a des exigences très fortes, mais en même temps on est sensible à leur mouvement, à leur variété, à leur variation, à leur diversité, et voilà, ça me paraît très difficile de doter cette pluralité.
Alors justement, pour reprendre le plan de Méditerranée au pluriel, j'ai remarqué que, après un premier chapitre introductif, Mer Méditerranée, votre deuxième chapitre donc est Vestiges, et il est consacré à la Grèce, mais pas à la Grèce continentale, ni même à la Grèce des îles, mais il est consacré à la Grèce du pourtour méditerranéen, à commencer par l'Ionie, et à commencer même par le site de Troie. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et en revanche, le dernier chapitre, vous l'intitulez Retour à la Grèce. Et là, vous abordez, avec Dominique Fernandez, quelques sites choisis. Bien. Alors, pourquoi ce choix, justement, de l'Ionie d'abord, et puis ensuite de la Syrie et de tout le bassin méditerranéen, en définitive, à partir de ces vestiges grecs, ou d'origine grecque?
Alors c'est très simple. D'abord, il faut que je dise la genèse de ce livre. Il est très important pour moi parce que j'ai connu Dominique Fernandez sans le connaître. Je l'ai connu parce que j'ai la chance d'avoir lu Mer Méditerranée, offert par un ami quand j'avais 17 ans. Et j'ai été bouleversé parce que je suis fils d'un Sicilien et d'une Sarde. Et quand j'ai lu ce livre, c'était un livre sur la Sardaigne et la Sicile et le Grand Sud. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai retrouvé toutes mes racines. J'ai trouvé des modes de vie, des mœurs, des habitudes, des attitudes qui. Enfin, je ne peux pas dire que je me reconnaissais parce que j'étais fils d'immigrés, mais en même temps, je dis, mais c'est étonnant, ces comportements, dans la description d'un espace imaginaire, ça y est, j'avais trouvé mon espace du voyage. Hein. Donc c'est un livre qui a beaucoup compté pour moi. Quand j'ai connu Dominique Fernandez, paradoxalement, notre rencontre a été scellée très, très précisément au mois de novembre 81. Parce que je rentrais de Grèce. Et au lieu de parler de la Sicile que je connaissais encore mal et ou de la Sardaigne que je ne connaissais pas encore, qui était la terre de ma mère, j'ai évoqué un des moments les plus importants de ma vie. Mon premier voyage en solitaire, mais un vrai voyage, était la Grèce. Je suis parti parce que j'avais lu dans un livre sur l'archéologie, avec ma passion d'archéologie, que le temple de Bassaé, en Grèce, dans le Péloponnèse, on avait trouvé dans ce temple le premier chapiteau corinthien. Et que ce chapiteau corinthien s'inscrivait au cœur du sanctuaire avec des chapiteaux ioniques et des doriques à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un temple pas composite, justement, parce que c'est le seul temple qui réunissait les trois ordres d'architecture. Et moi, j'étais déjà fou de Vitruve, j'étais déjà en troisième année d'architecture, j'étais passionné par l'architecture classique, j'ai dit, ben voilà, j'irai en Grèce pour ça. Avant l'Égypte, hein, c'était. Que s'est-il passé? Je sais que le temple de Bassaï, il faut aller à Andritsaina. Et moi, je me dis, c'est facile, le temple est à proximité. Pas du tout, il y avait 20 km. Et je suis parti, léger, avec une pomme en main. Et je dis, je vais trouver le temple facilement. Et là, un camion m'a pris en stop. Et au milieu de nulle part, il m'a laissé. Il m'a dit, la route, Bassaï, c'est par là. Et je me suis retrouvé tout seul. D'un après-midi, avec un ciel d'orage grondant, ma pomme à la main, et j'ai eu le premier instant de bonheur. J'étais tellement heureux, je peux le dire, j'ai chanté. Peut-être que je conjurais un peu la peur parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais tout seul? D'abord, en plus, l'orage arrivait, puis j'ai dit, c'est bien beau d'avoir fait tout ce chemin en camion, mais il n'y aura pas de camion pour me ramener tout à l'heure. Et je suis arrivé devant ce temple, une déception totale, parce que le chapiteau corinthien, il y avait très longtemps qu'il avait été mis dans un musée. Et le temple était sous échafaudage en partie, mais le site était sublime. J'étais seul au monde avec la. Et je suis né là. J'insiste sur cette scène parce que je suis né ici. Et que se passe-t-il? Que le jour où je rencontre Louis Fernandez, rentrant de Grèce tout ému, je raconte cette histoire. Et elle me dit à Bassaé. Je suis allé à Bassaé en 1954 avec des mules. Imaginez, moi qui avais lu l'été grec de la carrière. Je retrouve un équivalent de la carrière, me dire, mais voilà, j'ai devant moi un voyageur d'antan, et c'était sa première émotion. Et j'insiste beaucoup sur ça parce que notre rencontre a été autour de ce chapiteau, de la passion, de la quête, de la découverte. Et quand nous avons décidé de faire ce livre, c'est-à-dire il y a plusieurs années, mais surtout l'année dernière, pourquoi retour à la Grèce? C'est qu'on s'est dit, voilà, on va aller pour la première fois en Grèce ensemble dans le Péloponnèse, et qu'est-ce qu'on va voir? Bassaé. Et c'est pour ça que je vais vous montrer une photo qui dit tout, qui est d'ailleurs mise dans l'itinérance, si vous avez vu l'exposition et si vous la verrez, parce que c'est la photo symbolique, ici vous la verrez en couleur, c'est la photo qui ouvre le chapitre. On est arrivé, on a programmé tout ce voyage autour de Bassae, et quelques jours avant, il était dans une croisière, il rencontre quelqu'un, il lui dit, n'allez surtout pas à Bassae. Bassae, il est sous échafaudage depuis des années, il est sous une bâche, on ne voit rien, vous allez être déçus. Ah ben, j'ai dit, ben, d'accord, on n'y va pas. Puis tout à coup, le dernier jour, je dis, c'est absurde. On sait qu'on va être déçus, au moins, revivons cet instant. Et regardez le cadeau que j'ai. Alors, d'abord, j'ai fait exprès, dans ce livre, de retrouver, vous la verrez mal, hein, mais la photo que j'ai faite en 1980. Donc, c'était ma première photo après la vague. En fait, l'émotion était de la déception du chapiteau, mais l'instant de grâce, de la solitude et du ciel d'orage, elle existait dans la seule photo que j'avais faite à l'époque. Donc j'ai voulu la ressusciter, mais regardez ce que Apollon m'a donné, avec sa générosité habituelle, surtout oui, en ce qui me concerne.
C'est superbe.
Voilà. J'ai mis en ouverture cette photo, qui était la seule photo possible à faire ce jour-là. C'est-à-dire que la bâche était trouée. Il y avait une grande bâche blanche, on aurait dit une œuvre de cristaux, hein, parce que le pauvre temple, il est ficelé de tous côtés par cette bâche blanche. Et il y avait juste une fente au moment où on accroche les deux bâches, si vous voulez, et un nœud avait sauté. C'est pas moi qui l'ai fait sauter, je vous promets. Et la lumière, eh bien, juste au moment où j'étais prêt, la lumière s'est infiltrée dans le trou. Apollon était là, je vous le dis, hein, c'était sûr. Et il a orienté son dard, là, comme ça. Et la photo, ce n'est que l'ombre d'une cannelure de temple grec. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que peut faire une cannelure de temple grec. Elle est probablement incurvée de 5 cm maximum. Et j'ai dit, voilà, je suis revenu en Grèce, je suis retourné en Grèce. Et tout ce livre, bon, c'est un peu long, mais ce livre, il dit tout ça. Il dit qu'au fond, si on a une expérience sensible fondatrice, nourrie, c'est très stendhalien hein, évidemment, si elle est nourrie de joie, si elle est nourrie de liberté, si elle est nourrie de révélation à soi-même, à partir de là, tout est possible, y compris 37 ans après.
Alors ce temple de Bassae, d'ailleurs, il est assez étrange, parce que je me souviens d'avoir lu aussi, il était grec, et la carrière, il me semble que c'est lui qui dit qu'on ne sait pas trop, d'ailleurs, ce que fait ce temple totalement perdu dans les montagnes, à l'écart de tout village, et on se pose plein de questions sur la fonction de ce temple, qui appartenait, je crois, à une... Enfin, je ne sais plus à quelle cité.
C'était pas une cité, c'était un temple qui, déjà en lui-même, avait la fonction d'être isolé dans les montagnes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une colonie, pas très loin, mais que surtout, ils ont demandé, écoutez bien, c'est magnifique, à Ictinos, l'architecte du futur Parthénon, et lui, il l'a considéré comme un essai du Parthénon. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'au fond, c'est comme une maquette de ce qui deviendra le plus grand et le plus précieux temple grec de l'histoire. Donc le lieu en lui-même était générateur de tout un voilà. Et heureusement, il a été pillé. Je vais vous choquer en disant ça, mais j'ai retrouvé la gravure. C'est quand je suis allé à Bassae après des années, il y avait une seule carte postale complètement épuisée. Elle était jaunie, et là, le monsieur me dit, c'est ce qu'on a eu à une époque, des cartes postales. J'ai dit, excusez-moi, mais celle-là, je ne peux pas la laisser, il faut que je vous l'achète. Il me l'a donnée. C'était la dernière, et c'était la gravure d'époque de 1830 du découvreur du temple de Bassae, dans lequel on voit le fameux chapiteau au sol. Donc, je ne savais plus quelle était la source. Et elle m'attendait là, à Bassae. Donc, évidemment, elle est encadrée maintenant, à la carte postale. Voilà. Et c'est ça qui fait rêver, si vous voulez. C'est que cette mémoire, c'est quoi ? C'est à la naissance même de la civilisation.
Tout à fait. Et alors, en Grèce, il y a assez peu, bon, à part le Parthénon, bien sûr, à Athènes, mais il y a assez peu de monuments, bon, il y a Delphes aussi, mais assez peu de monuments spectaculaires. Alors qu'on trouve beaucoup plus de monuments, justement, en Turquie ou dans le reste du bassin méditerranéen.
Alors, justement, comme Dominique Fernandez, moi, je connais très bien la Turquie, j'aime beaucoup, beaucoup, j'ai eu des chocs, mais absolument... indescriptible en découvrant la Turquie il y a d'abord de nombreuses années pour ce qu'est la Turquie, c'est-à-dire pour la Cappadoce, Istanbul, etc. Mais avec Dominique Fernandez, on a dit, parce que mon livre de chevet, c'est Homère, enfin c'est l'Odyssée, hein, je le relis tous les étés par bribes et régulièrement je le relis, enfin il m'accompagne tout le temps. Ce livre me bouleverse et depuis que j'ai 17 ans. Et il le sait, Dominique Fernandez, et il m'a dit, bah, écoute, on va commencer à 3. Et en fait, 3, tout le monde vous dit la même chose, mais 3, c'est décevant, il ne reste rien de 3. Évidemment, il y a les couches, on ne sait même pas si c'est 3, On dit que c'est 3, mais il y a tous ces niveaux superposés. Schliemann a dit, mais oui, c'est la 3-1, la 3-2, la 3-6, la 3-7. Voilà. Mais au fond, c'est le mythe qui est beau. Et en fait, la guerre de Troie, s'il n'y avait pas eu Homère, on l'aurait oublié, ce serait une guerre comme une autre. Donc c'est toute la force de l'imaginaire, c'est la force du génie. De Homère a-t-il existé? Est-il le conteur? Enfin, tout ça, c'est concret, c'est réel pour nous. Et Troie est très évocateur, paradoxalement. C'est vrai que la plaine de Troie, elle existe. Et vous imaginez les batailles, vous voyez Hector, Achille, vous les... Et voilà, ils sont... L'imaginaire les a créés, il les a rendus intemporels. Alors que, quand j'ai dit ça à Dominique, il m'a dit, mais moi, la Turquie, je ne connais pas. Je dis, allons-y. Et on a fait donc toute une promenade, une longue promenade. On a vu évidemment Aphrodisias, qui est un des plus beaux sites de Turquie. On a vu Didym, les colonnes de Didym. C'est extraordinaire. C'est l'équivalent de la Pythie de Delphes, hein, Didym, l'oracle. Vous avez Milet, vous avez Aspendos, Éphèse, évidemment. Bon, un peu trop touristique, mais magnifique quand même, avec la cité chrétienne. Et puis, il y a Termessos. Termessos, c'est les plus belles ruines de la Méditerranée, après la Libye. Vous avez encore les tombeaux des guerriers qui sont ouverts avec les casques gravés dans la pierre. Vous montez au théâtre, le théâtre, on se croise au Machu Picchu. Vous avez la montagne qui se dresse comme ça, vous avez les gradins, ils sont simplement dérangés par un tremblement de terre, c'est tout. Voilà, c'est l'histoire, la terre qui s'en est mêlée. Mais il n'y a rien de plus beau, c'est la solitude, c'est pas touristique, c'est pas abîmé. Voilà. Bon, il y a d'autres sites un peu abîmés qui sont aussi beaux. Delphes, c'est sublime, j'y suis retourné... Voilà. J'ai fait ma première aussi photo à Delphes, la première vraie photo en quittant mon premier dessin. J'ai délaissé le dessin très précisément au stade de Delphes. J'ai arrêté de dessiner, j'ai fait la première fois où j'ai dit que l'image pouvait se substituer.
Moi, je me souviens avoir dormi sous un olivier dans les environs de Delphes. D'ailleurs, le lieu avait été très difficile à trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut s'étendre même pour passer la nuit tranquille. Mm-hmm. Mais Delphes, c'est aussi magique, effectivement.
Bien sûr.
Et l'analyse que fait Dominique Fernandez est magnifique sur le rapport entre Apollon et Dionysos et la Pythie, etc.
Ce sont des textes complètement inédits, hein, parce qu'on sait qu'on va se dire, oh là là, Fernandez, la Méditerranée, il écrit depuis 54 sur la Méditerranée. En fait, il a tout réécrit, on a fait beaucoup de... Alors c'est pour ça, pour aller peut-être un peu plus loin, qu'il y a des chapitres, c'était troublant de faire pas ce lexique, hein, c'est pas un lexique, mais disons ces têtes de chapitres. Parce que vous passez de vestiges qui englobent en gros la Magna Grecia, on va dire, et on va d'un seul coup avoir Sicile. Pourquoi la Sicile? Et après vous avez Islam. Alors la pauvre Louise, ma graphiste, elle disait, non mais c'est quoi ces mots qui se mélangent? C'est des sonorités. Je dis non, ce sont des mondes. La Méditerranée, ce sont des mondes qui s'entrechoquent, mais qui sont tous dépendants les uns des autres. Ils ont tous un lien étroit. Ce sont des endroits qui... On ne peut pas les dissocier. L'islam, en effet, vous évoquiez la Syrie, qui est le grand drame de ma vie, enfin qui est mon désarroi de tous les matins, c'est... J'avoue, Amir. je pleure, hein, régulièrement, je pleure de cette Syrie que j'ai tant aimée, qui j'ai la plus belle hospitalité du monde, mes amis qui ont disparu, mon instituteur du désert qui n'a plus laissé de traces. C'est une partie de ma vie, la Syrie. Et je rends hommage d'ailleurs aux grands maisons qui sont là, parce que nos premières conversations à 30 ans, c'était mes rêves de Syrie. À l'époque, je n'étais pas encore allé, ils étaient allés, et on partageait mes rêves, et puis après, ma réalité syrienne, c'est des bonheurs d'une... Vous savez, la Syrie, ce qui était magnifique, j'en parle tout de suite parce que c'est la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est la Syrie? C'est la naissance des civilisations. C'est la Mésopotamie toute proche. C'est l'alphabet. C'est Douraropos. C'est l'Euphrate. C'est toutes ces civilisations qui sont nées là. Vous avez ensuite toutes les strates. Vous avez les premiers chrétiens. Vous avez les Arabes. Vous avez la Grèce de Apamée. Vous avez les Romains de Palmyre. Vous avez tout. Et vous savez ce qui était magnifique? Je le disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui me parlait de la Syrie. Il dit, mais qu'est-ce qui était beau en Syrie? Je dis, vous savez, vous arriviez chez des gens. Personne ne vous demandait, vous êtes chrétien? Vous êtes musulman? Vous êtes juif? Vous êtes araméen? Vous êtes chaldéen? Personne ne vous demandait. Vous étiez accueilli. Et à partir de là, après, dans la connaissance de l'autre, dans la joie justement, dans l'accueil qu'on recevait, et là, on s'écoutait. Et je ne décris pas une Syrie édulcorée. Hein. C'est ça la Syrie. C'était une terre où j'ai fait des rencontres magnifiques. Tout ça est éclaté. Mais je dis bien à jamais. Personne ne reconstruira la Syrie. On a reconstruit le Liban, oui, parce qu'il y avait la diaspora très riche. Mais il n'y a pas de diaspora. Tous les Syriens qui sont dans le monde maintenant en Europe, il n'y en a pas un seul qui aura les moyens de reconstruire la Syrie. Il n'y a pas de pétrole, il y a du gaz naturel. C'est tout. Et le gaz naturel, c'est les Russes qui le contrôlent. Donc c'est un drame. C'est un drame parce que on touche à la dernière réelle civilisation intacte qui pouvait rayonner sur notre monde aujourd'hui et donner une leçon au monde aujourd'hui. Et c'est fini. Effacé. Rayé. Il n'y aura plus de... C'est terminé, regardez. La Turquie a des enjeux. Le monde... Et tout le monde dit, hein, quand la Syrie tombera, c'est le Liban qui va tomber. C'est évident. Il y a trop de liens maintenant.
Alors je voudrais aborder le chapitre qui vient juste après, Vestiges et qui est port. Ports, les ports. Et la Méditerranée, ce sont effectivement des ports. Et vous en choisissez un tout particulièrement, qui pour vous est la quintessence du port méditerranéen, c'est Naples. Vient aussi très peu après Marseille aussi. Et effectivement, ce sont des ports dans lesquels des populations se mélangent et qui n'ont pas, heureusement pour eux d'ailleurs, bonne presse touristique. Ce qui fait que ces ports sont extrêmement vivants, mais ne sont pas en quelque sorte abîmés par la foule des touristes. Et donc, on assiste à une vraie vie méditerranéenne, notamment dans les marchés, par exemple, avec tout un... les nourritures, vous citez notamment les fruits, mais aussi les pâtisseries, par exemple. Et d'ailleurs, le texte de Dominique Fernandez, à cet égard, est un régal. Hein. Il donne plein d'adresses, comme ça, de petites adresses de pâtisseries, certaines qui disparaissent aussi, malheureusement.
Skaturka, enfin...
Bon, alors voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces ports?
Alors, là aussi, les titres sont évocateurs, mais ils correspondent à des choix très contrôlés. Hein, parce que vous faire un livre sur la Méditerranée, et vous l'avez tout de suite, vous l'avez d'emblée souligné, on ne peut pas faire une Méditerranée exhaustive. Il faudrait... Il y a eu Brodel, heureusement, et on a tous Brodel en tête. C'est le premier qui ait compris, disons, pas le sens, ça n'a pas de sens. Disons, la... dessiner, on va dire, une cohérence dans ce monde éclaté. Mmh. Voilà, c'est ça. Brodel, c'est l'histoire, c'est les civilisations qui se répondent les unes aux autres. Dans ce livre, il y a des lieux qu'on aime. Mais comme on a déjà fait un livre sur Naples, dans la même collection, on a fait un livre sur la Sicile, dans la même collection, on s'est dit, au fond, le port, c'est la porte, justement, de l'imaginaire de ces pays. Or, notre passion, c'est Naples. On s'est connu aussi autour de Naples, c'est la ville qui résiste, c'est la seule ville qui ne change pas. J'étais encore il y a 15 jours, je suis parrain d'un petit Napolitain, donc j'étais très content. On a fêté le jour de la San Gennaro, et bien la San Gennaro, il miracolo, il est arrivé à 11h du matin, 11h15, et la ville a bruit, et les télévisions montraient le sang qui se liquéfiait. Moi j'adore ça, voilà, je trouve que cette ville, elle résiste aux superstitions, aux images, aux clichés, voilà, elle est authentique. Et la seule ville en France qui reste authentique, c'est Marseille. Mmh. C'est pour ça qu'elle est mal aimée, comme Naples est mal aimée. Parce que ce sont des villes qui sont nées du croisement. Moi, Marseille, c'est Alexandre Dumas, hein, d'abord. Hein, c'est Château d'If, c'est l'évasion. Enfin, voilà, il y a aussi tout un imaginaire.
C'était la ville des Galériens aussi.
Et voilà. Et puis, c'est le retour de Rimbaud qui reste en quarantaine et qui va en mourir. C'est important. Hein. C'est la ville qui va séquestrer les gens qui vont... Mais c'est une ville, c'est quoi? C'est Puget, c'est au cœur du panier. Mmh. En plus, j'ai eu beaucoup de chance. C'est pour ça que j'ai voulu intégrer Marseille. On m'a confié un reportage que j'ai très peu l'habitude de faire. On m'a associé à la mode. Et ça s'appelait « Marseille aime la mode ». Et on est venu me chercher. Je manque pas la mode, photographe de mode, je ne suis pas du tout photographe de mode. J'ai dit, c'est intéressant. Et j'ai compris pourquoi j'avais envie de le faire, ce projet. C'était qu'il fallait, ce n'était pas la mode officielle, c'était la mode des identités. Et il y avait une personne qui m'a, chaque fois j'avais des muses comme ça, qui m'accompagnaient, qui venaient me chercher le matin, et chaque fois elle m'emmenait dans un quartier différent. Et le but était de montrer comment les gens s'habillaient naturellement. Pas pour faire d'artifice, que leur identité passait par le vêtement. Mais je me suis... j'étais heureux. J'ai fait des rencontres extraordinaires de toutes les... Et à partir de là, j'ai dit, mais voilà, c'est ça que j'aime dans cette ville. Alors évidemment, on va vous dire, oui, c'est une ville sale, comme on dit ça de Naples, c'est une ville chaotique. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant à Marseille? Le Mucem. Et c'est l'œuvre modératrice. C'est celle qui, aujourd'hui, tout le monde ne parle de Marseille. Je n'arrête pas de faire le lapsus, mais rassurez-vous, je parlerai de Marseille quand je dirai Marseille quand je parlerai de Naples. C'est qu'au fond, c'est des villes tellement ancrées dans leur identité, et heureusement, leur richesse naît de la diversité. Et c'est à partir de là que, justement, on a envie de les connaître mieux. C'est comme une personne complexe. Mmh. Ce n'est pas une personne qui va tout dire, qui a les traits tirés, qui a un visage où il n'y a plus de traces. Voilà, ça peut être des magnifiques visages. Mais Marseille, ce n'est pas ça. Marseille, c'est une ville ridée, torturée, éclatante, sombre. Et j'ai aimé faire ce travail. Alors évidemment, je ne montre pas des photos de mode. Alors ça, j'insiste aussi. Parce qu'il y a très peu, ça c'est mon travail habituel, hein, donc je vous mets en condition pour ceux qui un jour auraient à posséder ce livre, mais mon travail, toujours, est de rendre les lieux intemporels. Hein. C'est le paradoxe, c'est le contraire justement d'itinérance, c'est que dans mes villes, par exemple quand j'ai photographié plusieurs fois Saint-Pétersbourg, quand j'ai photographié Naples, les gens étaient tout à fait désorientés. Il me disait, mais où sont les habitants? La ville est déserte. J'ai dit non, la ville elle est habitée juste parfois, très rarement, par la personne juste. C'est la personne qui est l'acteur du décor proposé. C'est la personne qui va donner tout son sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reviens sur ça, parce qu'à Marseille, plus tard, d'ailleurs après mon travail sur la mode, Marseille aime la mode, il y avait une photo, j'étais au Mucem et j'étais heureux, il faisait très beau, j'ai aimé ce musée, et il y avait des enfants qui jouaient dans l'eau, qui sautaient. Et j'ai dit, peut-être que je vais arriver à en capter un. Et j'ai capté un plongeon. Évidemment, je l'ai mis en parallèle avec le fameux plongeur de Paestum, la plus belle évocation que nous ayons du saut dans la mort, hein, chez les Grecs, la catharsis. Et c'est une œuvre tout à fait symbolique. Mais c'était un métis, d'ailleurs. Hein, j'aime cette photo parce qu'on a ce métis, la tête en bas. Ils ont dit, mais comment il a fait? Ben, j'ai dit, j'étais là, j'ai attendu. Mais il incarne, justement, il s'inscrit dans toute la philosophie du plongeon, mais il est tout seul. Il est seul au pied de la tour. Voilà, c'est une photo emblématique. Et là, il est indispensable. Oui, on ne peut pas s'en passer. Une fois qu'on a vu la photo, on ne voit plus le bâtiment. D'ailleurs, le bâtiment, le Mucem, ce n'est pas vraiment le sujet. C'est la relation du plongeur avec le musée.
Alors, en effet, vous ne faites pas de photos de foule ou de groupe, mais souvent, vous choisissez donc un personnage et ou quelquefois d'ailleurs très rarement un cheval aussi. Mais alors là, je voudrais en profiter pour vous poser une question d'ordre, je dirais, esthétique. J'ai porté là le livre d'une amie qui est Baldine Saint-Giron et qui a écrit un livre notamment qui s'appelle Le pouvoir esthétique. Et dans Le pouvoir esthétique, elle distingue ce qu'elle appelle trois principes qui sont non seulement, comme on le dit traditionnellement, le beau et le sublime, mais aussi la grâce. Et je me demandais, en regardant vos photos, quels étaient au fond, peut-être inconsciemment d'ailleurs, vos choix esthétiques. D'abord, j'ai l'impression que la beauté, chez vous, dans vos photos, est un principe très fort, un principe classique, justement. Un principe classique. Alors, le baroque est très tenté par le sublime. Alors, je ne sais pas quelle part le sublime a dans vos photos, mais il y a aussi la grâce qui est, alors, qui se distingue et du beau et du sublime, selon Baldine Saint-Giron, et qui correspond à un charme, quelque chose de doux, de flottant, etc. Alors voilà, donc à cette occasion, je me demandais quels étaient au fond, peut-être a posteriori, dans votre réflexion, vos choix ou ce qui apparaît comme vos tendances esthétiques.
Voilà, c'est la question la plus juste qui m'ait jamais été posée, je crois, parce que je vais dire son livre tout de suite. Non, mais au fond, c'est probablement les trois mots qui, je ne peux pas dire qui me caractérisent parce que ce serait prétentieux, mais auxquels j'aspire. Le beau classique, vous avez Exactement défini. Pour moi, le beau, toute beauté est subjective, on le sait, ça ne veut rien dire, c'est beau. Je me référerai à Stendhal, parce que Stendhal, je suis un fou de Stendhal, comme vous savez, et surtout, j'ai beaucoup travaillé sur le syndrome de Stendhal, donc j'ai fait une analyse très poussée, pour moi, hein. Bon, j'ai écrit à deux reprises, mais ça c'est autre chose, sur ce fameux syndrome. Et ce qui m'a frappé, c'est cette phrase de Stendhal, qui disait tout le temps sublime, sublime, sublime. C'était le mot, si vous faites l'inventaire des mots de Stendhal, c'est le mot qui apparaît le plus, il y en a deux. C'est sublime et sensibilité. On va s'amuser à les compter. J'aimerais bien un jour qu'il y ait un logiciel qui me permette de les compter parce que je suis sûr qu'ils arriveront largement en tête. Pour lui, c'est toujours sublime. Alors après, j'en dis oui, mais c'est facile de dire c'est sublime. Ouais, non, on va y revenir. Au contraire, le mot est d'une extrême justesse. Et à un moment, quand il va entrer dans cette transe, or il faut être très important, vous allez voir le lien avec les deux autres notions, c'est que Stendhal était un athée absolu. Il n'avait aucune croyance. Il était même contre les effets de la religion, les effets et les formes de la religion. Sauf que le jour où il a son syndrome, que se passe-t-il? Il dit « Mon Dieu, que c'est beau !» Il le dit trois fois. Et après, il dit « C'est sublime !» Mais quand vous avez déjà vu « Mon Dieu, que c'est beau !», le sublime n'a pas la même couleur, n'a pas la même sonorité. Hein. Donc déjà, on se réfère à ce « Mon Dieu, que c'est beau !» Dans ce cas-là, je m'arrêterai pour dire « Que c'est beau !» J'enlève le « Dieu » pour l'instant. Hein. Ensuite, forcément, le sublime, c'est tout ce qui touche au divin, selon moi. Hein. C'est-à-dire que c'est un beau qui aspire, qui vous amène, qui vous conduit à une autre dimension. Justement, le sublime touche. Et la grâce, c'est tout sauf la douceur. Tout. La grâce, c'est le don. Quand vous remerciez en italien et vous dites « grazie », ça veut dire « je rends grâce de ce que j'ai reçu ». Et là, ça va beaucoup plus loin que le sublime. Parce que rendre grâce, c'est certes une notion qui touche au divin, d'une façon très élevée, mais en même temps, qui vous rend le plus humble des hommes. Parce que si vous dites « grazie » à quelqu'un, vous dites « merci de la grâce que j'ai reçue ». C'est pas vous qui... C'est pas dire « je remercie », ça n'a rien à voir. « Je remercie », ça veut dire « c'est moi qui te remercie ». Non, « grazie », « merci », merci dans une entité à ce que j'ai reçu. C'est tout à fait différent. C'est pas quelque chose qui sort de soi. C'est quelque chose qui rentre en vous. Mmh. Et moi, je suis très sensible à la notion de la grâce. Et souvent, je dis, quand je décris des photos qui m'ont été données, je le répète, le cheval que vous évoquez, c'est un cadeau. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, la photo. Je le sais. C'est pas moi. C'est
le cheval qui est venu.
Oui, il m'a été envoyé, c'est différent. Le cheval m'a été envoyé. Je sais par qui, hein. Tout le monde, enfin, mes amis proches le savent, c'est Piranès qui me l'a envoyé, mais bon, c'est pas compliqué. Voilà, il était gentil, il m'en a donné trois en plus. Il m'a dit, je te laisse trois chances, hein, mais ne rate pas la dernière. Bon, par chance, je n'ai pas raté la dernière, les deux premières, je les ai laissées passer. Voilà, et bien là, je dis grazie, je rends grâce. C'est un moment qui a changé ma vie. Et on ne peut pas ne pas remercier, c'est pas possible. Et ça va au-delà du beau. Alors les gens vous disent, ah, elle est belle cette photo, peut-être. Ah, elle est sublime. Ah, peut-être. Mais avant tout, elle est d'un autre ordre. Elle touche à une autre dimension. Et ça, je suis toujours reconnaissant de ça. Parce que dans ces cas-là, vous n'êtes plus que l'instrument, vous n'êtes que le réceptacle, au fond, de cette autre dimension. Et forcément, vous vous interrogez. Et en ça, le photographe, parfois, c'est vrai, on a cette ambition. On est très exigeant, on est capricieux, et on reçoit les cadeaux avec beaucoup de joie quand il y a. Mais on est aussi les acteurs. Hein. Attention, on peut dire merci, mais on a quand même ouvert le cœur, hein, comme dirait Stendhal, le cœur est ouvert, ou les hésychastes de l'athos. Hein. Les hésychastes, vous savez, c'est ce qu'on. On parle très peu de l'athos, parce qu'alors Dominique Fernandez, en ça, il est très proche du premier Stendhal, parce que lui, il est aussi très. Il est toujours rebelle contre les formes de la religion, mais on en parle, c'est bien, on en discute. Mais il respecte d'ailleurs parfaitement mes engagements. Mais je pense que c'était important de souligner cette dimension mystique, hein, parce qu'elle compte.
Mais on va y revenir peut-être avec l'autre, si vous voulez, avec l'exposition. J'aurais voulu vous poser aussi une question à propos des îles, îles et presqu'îles, et notamment la Sicile et la Sardaigne, puisque vous avez un grand-père qui est né dans une île au large de la Sardaigne, enfin tout proche de la Sardaigne, et un autre qui est né en Sicile, dans le nord-ouest de la Sicile. Et la Sicile et la Sardaigne sont extrêmement différentes. sont extrêmement différentes. Bon, Dominique Fernandez le développe. La Sicile est un pays de multiples civilisations et avec de très nombreux écrivains, alors que la Sardaigne est un pays assez fermé aux autres civilisations qui n'ont pas fait beaucoup d'empreintes sur le paysage ou sur les monuments. Et c'est un pays aussi qui n'a pas peut-être de grands écrivains comme la Sicile a eu. Alors, pourriez-vous peut-être développer ce contraste entre Sicile et Sardaigne ?
Ah oui, bah c'est très juste. Ce qui est très clair, c'est que la Sardaigne, elle était rattachée au Piémont et elle est surtout espagnole. Elle a évidemment toute cette présence. C'est une terre austère. Je vous invite à voir pour ça un film malheureusement très peu connu, trop peu connu. Je vais vous inviter à revoir ou à voir deux films qui vont tout dire de ce que vous voulez. Le premier, ça s'appelle Banditi ad Orgo Solo. C'est un film totalement oublié. Desseta, il s'appelle. Notez-le parce que si vous pouvez le trouver en DVD, c'est un des plus beaux films qu'on ait fait sur la Méditerranée. Et c'est, comme son nom l'indique, les bandits dans ce village de Orgosolo. Et il raconte comment des bergers, un jour, vont être contraints à devenir des bandits parce qu'ils étaient... ils ont échappé à la police. C'est une longue histoire. Et d'un seul coup, ils vont devenir des parias. Et la police va les pourchasser. Et ils vont partir avec leurs troupeaux au cœur de la Sardaigne, dans des paysages d'une beauté, mais d'une virginité infinie. Et évidemment, les moutons vont mourir petit à petit, épuisés, et ils vont devenir eux-mêmes la proie de la nature. Et ce film, qui correspond à un livre, d'ailleurs, est bouleversant, parce que c'est vraiment l'évocation de la Sardaigne. La Sicile, le film que je vous invite à voir, qui doit être plus facile à trouver, c'est sublime, c'est Salvatore Giuliano de Francesco Rosi. C'est celui qui va raconter, évidemment, le massacre de Corleone, et toute la vie du mafiose. C'est un film extraordinaire. C'est un film, quand vous verrez la scène où la mère voit son fils mort dans la morgue, et c'est une piéta intemporelle. On peut aussi voir tous les films, on a parlé de la littérature, mais enfin, on peut l'évoquer, bien sûr. Moi, je suis un fou de Verga, par exemple. Verga est intraduisible, il est ancré dans la Sicile. Bien sûr, on connaît tous Pirandello et Lampedusa, et magnifique conversation en Sicile de Elio Vittorini. C'est extraordinaire, ce texte, c'est une mélopée arabe.
Bufalino aussi.
Oui, Bufalino aussi, enfin, le poète, etc. Donc vous avez, c'est vrai, une terre, vous pouvez citer des dizaines de noms siciliens, en Sardaigne moins. Sauf que, quand vous voyez Salvatore Giuliano, vous voyez en fait le drame antique. La Sicile est restée une terre antique. Encore aujourd'hui, vous voyez, vous lisez Eschyle, Sophocle, vous savez très bien que cette terre, elle est ancrée dans ce sens de la tragédie. La photo, pour moi, c'est une photo du cheval, c'est une photo de tragédie. C'est une photo qui... Le cheval, c'est pas par hasard, c'est la cavale de la mort, mais elle franchit le seuil de la lumière. On est obligé d'avoir cette lecture pour la Sicile. Vous voyez, une lecture parce que ce sont des civilisations qui n'ont cessé de se superposer. C'est un palimpseste inépuisable. Donc la Sardaigne, vous allez la lire avec des ports magnifiques. Cagliari, par exemple, vous avez les nouragues. C'est des formes encore non développées. C'est des formes archaïques. On est très proche de la Grèce en cela. Voilà. En revanche, la Sicile, moi j'y vais tous les ans et j'en finirai jamais. J'en finirai jamais parce que à chaque fois c'est un petit village. Je me souviens un jour je suis allé à Idone, qui connaît Idone, il y avait une façade en diamant. Pas loin il y a des vestiges d'eau. Il y a pas longtemps on a trouvé, vous savez, deux extraordinaires sculptures. On a trouvé une sculpture en porphyre et en marbre qui avait été d'ailleurs achetée par Getty qui a été renvoyée. Puis surtout on a trouvé le fameux satyre de Marsale. Vous savez, il a été montré maintenant. C'est un faune dansant. Il lui manque une partie, mais il a la jambe en arrière et je ne peux pas trop imiter, je vais finir par un lumbago, mais c'est extraordinaire. Il était là dans la mer. On a trouvé les fèbes de Mozia, on a trouvé les métopes de Selinunte et tout ça. Donc,
oui, parce que la Sicile est un carrefour aussi.
C'est le carrefour, c'est le nombril. Oui. C'est pour ça qu'on a remis un chapitre sur lui. Toutes les photos sont inédites. Alors j'en profiterai pour terminer, pour dire que vous avez parlé de noir et blanc de couleur. Oui. C'est important, parce que c'est ce qui rythme le livre vraiment. Je voulais que tout ce qui était dans le texte de Dominique Fernandez... Alors le livre est conçu comme ça. Vous savez, je vous ai dit que j'étais obsédé du cadrage, mais je suis obsédé des maquettes aussi, parce que je suis très exigeant. Donc chaque chapitre commence par une photo couleur. qui devient frontispice, hein, comme dans les livres de gravure, sauf que c'est en couleur, qui va donner le ton à tout le chapitre. Et tout ce qui fait écho au texte de Dominique Fernandez, qui a besoin d'être illustré, va être en noir et blanc. C'est ce qui m'a permis de mettre des archives d'années 80, de mettre des vieilles photos, voilà, c'est pas des photos du 19e siècle, presque, mais presque, je veux dire, mais dans l'esprit, justement, de la mémoire. Hein, voilà. Et après, ce sont des cahiers photos où la couleur est omniprésente, mais elle peut parfois être comme du noir et blanc, parce que parfois, on a la lumière, mais on n'a pas de couleur. Et c'est ce qui peut troubler aussi. Hein.
Alors, avant de parler d'itinérant, je voudrais dire un tout petit mot de deux chapitres de Méditerranée, celui qui s'intitule Algérie et celui qui s'intitule Catalogne au pluriel. Alors le chapitre sur l'Algérie est extrêmement intéressant parce que vous nous faites découvrir des lieux qui sont très peu connus. Bon, l'Algérie n'est pas un pays spécialement arpenté par les touristes, mais à part peut-être le site de Tipaza. Donc là, je pense que là, vous nous faites découvrir des lieux passionnants à travers aussi l'histoire de plusieurs civilisations qui se sont succédées les unes aux autres. Ensuite, il y a le chapitre les Catalognes. Alors vous distinguez, d'ailleurs c'est amusant, parce que vous distinguez une Catalogne espagnole, d'ailleurs qui déborde du côté français en quelque sorte, et c'est la petite chaîne de collines des Albères qui, selon vous, ou selon Dominique Fernandez, sépare la Catalogne espagnole de la Catalogne française. Et là encore, vous nous faites découvrir des lieux absolument passionnants et très peu connus, notamment des églises romanes, par exemple, et également aussi des retables baroques. Bon, alors, est-ce que vous voulez en dire peut-être un petit peu?
Oui, bah, j'irai vite, mais bon, on pourrait aussi développer. L'Algérie, c'est le pays où je suis né, c'est là que mes parents se sont rencontrés. Et donc, j'ai toujours dit, l'Algérie, je l'ai connue à travers les évocations de mes parents, nostalgiques, très nostalgiques, de cette terre de soleil. Et paradoxalement, c'est le dernier pays où j'ai mis les pieds en Méditerranée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai foulé tous les rivages. Hein. J'ai mis 55 ans, enfin 50 ans parce que j'y suis né, mais bon, à partir de mes premiers voyages, j'ai vraiment mis les pieds sur tous les sols, de la Croatie, enfin, passons. La Jordanie, la Libye. Bon. Et le dernier pays qui me manquait, c'était l'Algérie. Et un jour est arrivé dans ma vie un plasticien extraordinaire qui s'appelle Rachid Koraïchi, qui est un soufi, rattaché au prophète hein, par les Koraïchi. Et il m'a dit, mais comment, tu ne connais pas le pays où tu es né, je t'y emmène. Et ça a été extraordinaire. Il m'a introduit dans ce pays et il m'a amené dans les confréries soufis du désert, à Témassine, où je retourne tous les ans, où je suis adopté maintenant, tout en n'étant pas musulman. J'ai d'ailleurs vécu, j'y vais toujours un vendredi pour vivre le dhikr avec eux, ils m'acceptent totalement. Le dhikr, vous le savez, c'est la répétition, c'est le mantra hein, qui répète en permanence le nom d'Allah jusqu'à la transe. C'est extraordinaire. Et, de là, j'ai connu plein de gens, donc je vais très vite, et j'ai eu le privilège de sillonner tous les sites archéologiques d'Algérie. Et c'est un pays totalement inconnu, méconnu. Il est coincé entre la Tunisie et le Maroc. Évidemment, malheureusement, tout le monde est entraîné dans le même souffle aujourd'hui, puisqu'il y a des attentats aussi bien en Tunisie qu'ailleurs. Bon, on ne va pas parler de ça. Et j'aime ce pays. J'ai découvert ce pays, j'ai passé un jour de mon anniversaire seul à Tipaza, de l'aube au coucher du soleil, en janvier, rassurez-vous, la journée était courte. Et donc c'était une façon de rendre hommage à Camus, mais aussi de connaître ce pays. Voilà. Et ce qu'on a montré ici, puisque le livre existe, chez Actes Sud de l'Algérie antique, c'était de montrer aussi un autre port fabuleux qui est Alger. Parce que, et puis qu'est-ce que c'est l'Algérie? C'est Saint-Augustin, hein, c'est évêque d'Hippone, c'est tous les derniers comptoirs romains, c'est magnifique. Et puis c'est un pays d'une fierté, c'est un pays d'une authenticité. Moi, j'aime énormément les Algériens.
Alors voilà un mot important, hein, authenticité.
Très authentique. Ce sont des gens qui vous accueillent avec une... Ils sont comme les Siciliens, en apparence ils sont un peu retors, là comme ça, ils vous observent, mais du jour ils vous ouvrent la porte, vous n'en... C'est merveilleux. Vraiment, je suis très. Donc, je voulais qu'on rende hommage à ce pays. Puis, il y a des photos que j'aime beaucoup, enfin, que j'ai aimé faire dans la Casbah. Je vais tout le temps dans la Casbah d'Alger. Elle est en train de tomber en ruine malgré l'UNESCO. Mais c'est vraiment un lieu très fort. Et la Catalogne, mais c'est l'endroit où j'ai grandi après, quand mes parents sont arrivés en France. Donc, je voulais aussi rendre hommage à ce pays. Et surtout parce que ça donnait aussi l'objet d'un livre qui s'appelle Le baroque catalan. C'est là que j'ai découvert le baroque sans le savoir. La première fois que j'allais à l'église, quand j'étais enfant, d'ailleurs, c'est là que j'allais à la messe, etc., c'était une église baroque de Senières. Et je ne savais pas, moi je voyais une église, je voyais des retables, j'étais touché, mais ils brillaient, c'est vrai, dans l'obscurité, ils sont dorés, je trouvais ça très beau comme un enfant, c'est assez merveilleux, mais on m'aurait dit c'est baroque et c'est catalan, ça ne me touchait pas, c'était pas le mot qui comptait, c'était comme des images, vous voyez, comme des vibrations. Et je me suis battu pendant 10 ans pour faire ce livre, et j'explorais toutes les églises baroques. Évidemment, la Catalogne, pour beaucoup de gens, c'est la Roman. Mon premier dessin d'architecture, quand j'avais réel, c'était quand j'avais 15 ans, je suis allé m'enfermer dans le cloître de Saint-Michel de Couchard, et j'ai dessiné des chapiteaux, les uns après les autres, comme ça. Personne ne m'avait dit, hein. J'avais envie de dessiner, et j'ai découvert l'épopée de Gilgamesh. Voilà, je suis né là aussi. Hein. Je suis né à cette mémoire catalane, et Saint-Martin du Canigou, le cloître d'Elne, le linteau de Saint-Génis des Fontaines. C'est magnifique, c'est un patrimoine superbe, superbe. Donc voilà, j'ai rendu hommage dans ce livre aussi à cette partie-là, à cet héritage catalan. Et l'espagnol, ben, on a... Quand j'ai fait mes études d'architecture, mon premier travail, c'était Gaudi. C'était le travail, les liens, enfin l'influence de Gaudi sur Bofill. À l'époque, c'était les grandes années Bofill. Alors j'allais à Reus, mais j'ai passé des heures, des journées dans Gaudi, la Sagrada Familia de l'époque, le Parguel, la Casa Batlló. C'était mon univers, quoi. J'allais, je me promenais, j'avais 17 ans. Et je dessinais Gaudi. Voilà, tout ça, et puis Gaudi, c'est baroque aussi. Hein,
en même temps, Dominique Fernandez est sévère pour les changements qui ont été opérés à Barcelone, notamment dans l'ancien quartier près du port.
Bien sûr, le quartier... Mais tout change, mais moi, je n'ai aucune nostalgie. Peut-être que Dominique Fernandez peut avoir... Il n'est pas nostalgique, hein, parce que c'est un homme très... Vous voyez, par exemple, l'évocation de la Grèce, c'est un très bel hommage. Hein. Il ne dit pas « la Grèce est détruite, le tourisme... » Non, pas du tout. Il mentionne, à juste titre... Parce que c'est un fait, hein, c'est une réalité, notre monde change, le tourisme. Mais regardez maintenant, la moitié de la Méditerranée est interdite. Au moment même où tout se développait, on n'a plus de pays où aller. Enfin, je ne dis pas ça comme disant c'est effrayant, on nous a ôté notre territoire, pas du tout. Les terres qu'on pouvait enfin découvrir, la Libye, j'ai fait un livre sur la Libye, mais les ruines de Libye, Leptis Magna, donc c'est pour ça qu'il les a mentionnées. Mais Leptis Magna, mais des journées j'ai passé. Je rentrais en cachette le matin par la mer, parce que ce n'était pas fermé, hein, une fois que j'ai compris ça. Donc je me levais à 6 heures, j'ai passé trois séjours solitaires, et je rentrais par la mer, j'en profitais pour faire un petit bain, comme ça, le matin, et puis j'étais seul jusqu'à ce que les premiers touristes et enfants entrent. C'était dans les années 2005-2006. Impossible aujourd'hui, c'est impossible. Et tout le reste, Tipaza, vous parlez de Tipaza, il n'y a pas un touriste à Tipaza.
Enfin, je voudrais parler rapidement d'itinérance. Là, vous donnez la parole à trois auteurs. Bon, Dominique Fernandez, dans un chapitre qui s'intitule « Pierre sauvage, pierre vivante, une écriture de lumière ». À Elisabeth Foch, rencontre « La jubilation des souvenirs ». Et Sylvie Germain, empreinte du sacré, vent du sacré. Alors, qu'est-ce qui vous amène ainsi à donner la parole à des écrivains?
Parce que je suis un photographe littéraire, et je le revendique. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la littérature, bon, plus la musique, hein, parce qu'en fait, ma vraie, vraie, vraie passion, comme Nicolas Bouvier, c'était la musique. Moi, je suis fou de musique, je suis mélomane, j'ai besoin de la musique. J'ai voulu apprendre le piano tard, mais je l'ai appris. J'ai fait du chant pour comprendre comment ça fonctionnait. Voilà, je suis ni chanteur, ni pianiste, mais... La musique, ça me nourrit, voilà. Et la littérature aussi, parce que j'ai beaucoup lu, je lis beaucoup, peut-être un peu moins maintenant avec liberté, parce que j'ai beaucoup de choses à lire pour mon travail et mes passions. Mais voilà, j'ai lu tout Dostoïevski, j'ai lu Tolstoï, j'ai lu tous les Siciliens. Enfin bon, j'ai besoin aussi de la littérature. Et je pense que c'est d'abord, j'ai eu la chance de faire ce travail avec Dominique Fernandez que je remercierai toujours. De cette confiance qu'il m'a faite, parce que c'est lui qui m'accompagne, comme ça. Et c'est lui qui m'a aidé à comprendre une notion très importante qui est l'illustration, qui est un mot très péjoratif dans la bouche des gens. Les gens disent « Ah ben oui, c'est un illustrateur, il ne fait qu'illustrer des mots », mais pas du tout. L'illustration, c'est la mise en lumière. Mais il faut accepter que cette mise en lumière, ce soit une réponse permanente. Pourquoi ? Parce que nous, avant tout, avant même, quand on apprend à lire, qu'est-ce qu'on fait ? Avant même de voir des images ou des tableaux, on crée des images dans la tête. Si on aime les mots, on développe notre imaginaire, on crée quelque chose. Et on a tous des images dans la tête, tous. Pourquoi ? Parce qu'on a lu des poèmes, on nous a raconté des histoires quand on était petit. On n'a pas mis des images toujours, hein, c'est ça. Et je crois que les mots, et je suis extrêmement respectueux, justement, du rythme des mots. J'adore la poésie, Rimbaud, j'en suis fou depuis toujours, et c'est pas par hasard, il appelle ça les illuminations. Enfin, il y a plein de poèmes, mais enfin, pour moi, les illuminations, c'est la lumière. Hein. Rimbaud, je ne m'en lasserai jamais. Les illuminations, pour moi, c'est des images en mots. Nicolas Bouvier, qu'est-ce que c'est Nicolas Bouvier ? C'est des images en mots aussi, sauf qu'elles sont liées au voyage, etc., etc. Donc, je pense que la littérature, si elle suscite toujours ces mondes en images, elle aura toujours sa place.
Et donc, vous avez fait intervenir Elisabeth Foch et Sylvie Germain en particulier.
Alors, Dominique Fernandez, il a écrit un texte parce qu'il me connaît, il m'a vu naître à la photographie, non pas, enfin, j'étais déjà photographe, il m'a vu naître, disons, à mes passions. Elisabeth Foch, c'est une grande voyageuse, c'est une fille avec qui j'étais en Inde, en Birmanie, deux fois en Éthiopie, voilà. Ça va vous paraître très prosaïque ce que je dis, c'est une grande amie, hein. Mais son mari est pilote Air France, voilà. Et alors, ça peut paraître complètement critique, je veux dire, en fait, pas du tout, c'est qu'elle me dit, où tu vas, je peux venir avec toi. Et donc, ta destination, et elle me rejoint. Et donc, on a fait des voyages extraordinaires dans des pays comme ça, elle se glisse comme ça dans un avion, puis on part ensemble. On a fait des voyages vraiment merveilleux. Au Japon, elle est venue me rejoindre une année. Donc, je pensais que c'était elle qui écrirait mieux que tout sur mes voyages, parce que je suis souvent solitaire en voyage.
Et les rencontres, donc.
Et les rencontres, parce qu'en fait, elle base son texte pas du tout comme... Les trois textes, surtout Sylvie Germain et Elisabeth Foch, ne parlent pas du tout des photos. Hein. Ils réfléchissent sur la notion même de rencontre liée au voyage et surtout de la rencontre, qu'est-ce que le sacré ? Parce que voilà, Sylvie Germain, c'est un auteur qui revendique sa dimension mystique. C'est une... Justement, je dis bien mystique, hein, je l'enferme dans aucune religion. Et d'ailleurs, elle était, je dois l'avouer, un peu troublée par certaines photos. Elle m'a dit, écoute, envoie-moi tes photos, je vais voir si j'écrirai, je verrai. Mais en même temps, j'étais troublé parce qu'elle connaissait mon... Elle n'est pas du tout fermée, hein, pas du tout. Sylvie Germain, elle est sensible justement à la spiritualité, pas du tout au dogme. Mais quand j'ai pensé à elle pour ce texte, parce que c'est quelqu'un que j'estime énormément, elle m'a dit, oui, envoie-moi. Or, je revenais de la Kumbh Mela de Bénarès. Et donc, je lui ai envoyé des photos de Sadhu recouvert de cendres. Après, je lui ai montré toutes mes photos de pèlerins éthiopiens qui sont complètement recouverts de cendres, de poussière, etc. Je lui ai envoyé mes moines zen Shingon du Japon en méditation. J'ai envoyé un musulman qui, dans la mosquée du vendredi, un chiite qui invoque Dieu en tendant les mains vers le ciel. Elle a dû dire, mais comment je vais m'en sortir avec tout ça ? Et en fait, elle a compris qu'il ne fallait pas mentionner l'une ou l'autre. Elle a dit, au fond, Ferrand, c'est quelqu'un qui est en quête de l'esprit. Je crois que c'est un peu ce que je suis. Et donc, d'être avec tous ces êtres qui m'acceptent, qui m'accueillent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui vivent le meilleur d'eux-mêmes aussi, hein, parce qu'ils m'oublient souvent, que ce soit au Japon, en Chine, en Inde, l'Inde que je sillonne depuis 30 ans maintenant. Voilà, ça aussi, ce sont des rencontres. Et elle a compris ça, je crois. Elle a compris ce que c'était le pèlerinage. Elle a compris ce que c'était que marcher en quête de quelque chose, jusqu'à ce qu'on trouve... On ne sait pas ce qu'on va trouver. D'ailleurs, je reviens sur ça, c'est le titre. Itinérance.
Érance, avec deux R.
Voilà, avec deux R. Mais c'est ce que je disais justement à la base sous-marine, quand j'ai inauguré l'exposition. Je disais, au fond, on a un itinéraire tracé dans la vie. On sait qu'il est... Voilà, du jour où on est, on décide pour vous. Enfin, on vous ouvre la voie. Et puis un jour, on grandit et on dit « Ah, mais au fond, oui, je commence à deviner où je veux aller. » Donc, on dessine un but, on se forme, on étudie, on s'enferme, j'aime pas ce mot, on s'inscrit, voilà, dans des moules, dans des chemins. « Ah, je serai ingénieur, je serai archéologue, je serai ceci. » Et puis un jour, finalement, on découvre qu'on a un tout petit peu dévié. Et puis un jour, alors on prend vraiment goût à l'errance et alors là, on sort de tous les chemins et puis on en prend des chemins détournés. De temps en temps, on croise le bon chemin, enfin le chemin qui était dessiné, puis on revient, on continue. Et puis on s'émerveille parce qu'on se dit, mais au fond, je crois que le but que j'avais fixé, il est quand même, il se laisse pressentir, quoi, l'itinéraire, parce qu'on a tous une forme de... Je ne parle pas de la mort, hein, parce que là, on touche à autre chose. Je pense à la cohérence, je pense à... à ce qu'on attend vraiment, l'instant de la révélation. Voilà. Je pense, enfin, je le comprends maintenant en vous le disant, hein, mais je crois qu'on est tous en attente de l'instant de la révélation, quel qu'il soit. Le voile qui tombe. Si on est croyant, ce sera voilà, la résurrection. Voilà. D'ailleurs, toute une partie de l'exposition de la MEP est consacrée au thème du voile. Hein. Le voile, c'est fascinant. Qu'est-ce qu'il y a derrière le voile ? Et parfois, on voit, on devine ce qu'il y a derrière le voile, on le sait. On a le pressentiment. Et parfois, on a très peur de lever le voile. Hein. Surtout, dévoiler. Ah non, non, surtout pas dévoiler. On touche au mystère, on révèle le mystère. Non, 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 gardons le mystère.
Bien, merci. On peut inviter donc l'assistance à se rendre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu à l'exposition, à la base sous-marine. Merci.